France Culture.
Bonjour Marina, bonjour à tous. Constituer une coalition de pays volontaires pour dissuader Vladimir Poutine de violer une éventuelle trêve en Ukraine. C'est l'objectif ambitieux d'un sommet qui se tient aujourd'hui à Londres, qui réunit les pays européens, mais aussi l'OTAN, le Canada ou encore l'Australie. C'est l'un des mouvements de protestation les plus importants de ces dernières décennies en Serbie, des manifestations contre la corruption des institutions, dont le point d'orgue est attendu aujourd'hui, avec des milliers de personnes rassemblées à Belgrade dans une ambiance explosive. Gourmand en eau et en électricité, les data centers grignotent aussi le foncier à Marseille, qui est devenu en quelques années un hub internet mondial, ce que déplorent des chercheurs, associations et certains élus. Des data centers essentiels pourtant à l'intelligence artificielle qui représente un enjeu majeur pour la préservation des langues, à commencer par le français. Notre invité est Laurent Bézassier, enseignant-chercheur au laboratoire d'informatique de Grenoble. C'est un sommet virtuel, mais un sommet de première importance qui se tient aujourd'hui à Londres. Le Premier ministre britannique Keir Starmer réunit 25 dirigeants alliés disposés à aider au maintien de la paix en Ukraine en cas de cessez-le-feu avec la Russie. Une cessation des hostilités de 30 jours poussée par les États-Unis et acceptée mardi par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais face à laquelle le président russe pose des conditions préalables. Bonjour Laura Kalmus.
Bonjour.
En direct de Londres pour France Culture. Alors le sommet a débuté il y a un peu plus d'une heure, Laura, et Keir Starmer met en garde directement Vladimir Poutine.
Exactement, le Premier ministre britannique a donné le ton de cette réunion avec des mots très fermes envers la Russie. Il a martelé que Vladimir Poutine devra tôt ou tard venir à la table des négociations. Si le président russe prend la paix au sérieux, a-t-il déclaré, il doit cesser ses attaques barbares contre l'Ukraine et accepter la proposition de cesser le feu de Donald Trump. Aujourd'hui, Keir Starmer veut du concret, des engagements pour l'Ukraine. Il a posé les bases. D'un côté, le président Zelensky, présent lors de cette réunion virtuelle, a prouvé une fois de plus que l'Ukraine veut la paix. De l'autre, Vladimir Poutine cherche à gagner du temps. Le monde entier a les yeux rivés sur Vladimir Poutine, a déclaré le Premier ministre britannique devant son écran, s'adressant aux représentants des 25 pays formant cette coalition de volontaires. Alors, trois priorités aujourd'hui, renforcer l'Ukraine, être présent à défendre un éventuel accord et puis enfin, maintenir la pression sur la Russie. Deux scénarios, en fait, semblent se dessiner. Si la Russie accepte de négocier, la coalition devra surveiller le respect du cessez-le-feu et si ce n'est pas le cas, il faudra renforcer la pression économique sur Moscou. Un sommet crucial donc pour définir le rôle de chacun. Londres, Paris et Ankara ont déjà annoncé leur volonté de déployer des forces en Ukraine comme garantie de sécurité. D'autres pays pourraient, eux, apporter un soutien logistique.
Laura Kalmus, correspondante à Londres pour France Culture. Tandis que sur le front, l'armée russe reprend du terrain et annonce avoir repris deux villages dans la région russe de Koursk, occupés depuis l'été dernier par les forces ukrainiennes. L'Ukraine affirme de son côté avoir abattu 130 drones lancés par la Russie, des drones de fabrication iranienne lancés sur 14 régions du pays. La Russie qui dit avoir intercepté de son côté 126 drones ukrainiens la nuit dernière. Manifestation sous haute tension en Serbie, après des mois de manifestations pacifiques contre la corruption depuis l'accident de la gare de Novi Sad le 1er novembre dernier qui a fait 15 morts. Des dizaines de milliers de personnes convergent aujourd'hui à Belgrade dans un climat tendu alors que le gouvernement appelle ses soutiens à se mobiliser faisant redouter des affrontements. L'ONU appelle d'ailleurs les autorités serbes à respecter l'exercice complet des droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'expression. Quelques heures avant le début de cette vaste manifestation, Louis Seyé est allé prendre le pouls de la capitale serbe.
La manifestation n'est prévue qu'à 16h, mais ils sont déjà plusieurs centaines à faire du bruit devant le Parlement, comme Tara, une architecte de 31 ans.
On veut du changement parce qu'on en a assez. Il est temps que les choses changent. Il est temps que le peuple prenne sa liberté en main et ne permette à personne d'autre de lui voler cette liberté.
Un sifflet autour du cou, Aleksandar est venu en famille apporter son soutien aux étudiants qui manifestent depuis 4 mois contre la corruption.
On veut que les institutions fassent leur travail et que ces voleurs au pouvoir soient poursuivis, condamnés et aillent en prison pour les crimes qu'ils ont commis. Et qu'on puisse avoir des dirigeants qui travaillent pour nous et pas seulement pour leur propre intérêt.
Ces derniers jours, le président Vučić a fait monter la tension en évoquant des actes de violence et en mobilisant une ancienne unité de paramilitaires des guerres des années 90. Pas de quoi faire peur à Vladimir, tout juste arrivé du sud de la Serbie.
Je n'ai pas peur du tout. Ils essaient simplement de manipuler l'opinion. Mais nous sommes ici unis pour obtenir justice. Ce que fait le pouvoir n'a pas d'importance.
Ce 15 mars s'annonce déjà historique. Les organisations étudiantes ont annoncé le plus important rassemblement de l'histoire de la Serbie.
Depuis 1946, 6500 enfants ont été adoptés par l'intermédiaire de l'association La Famille Adoptive, l'un des plus anciens organismes habilités pour l'adoption. Une association qui, après avoir perdu son agrément en 2022, est dissoute ce samedi, suite notamment aux accusations il y a quelques mois d'enfants nés sous X dénonçant des pratiques d'adoption illégales. Des enfants qui se sont rassemblés en collectif pour sécuriser les archives de l'association. Christine Anger.
Sur son site, l'association Famille Adoptive Française signale que les dossiers des enfants confiés seront versés aux archives de Paris d'ici mai 2025. Des dossiers essentiels pour retracer les parcours d'adoption. Éric Pilardeau est cofondateur du collectif des Nés sous X d'ici ou d'ailleurs.
On voudrait que les archives soient donc protégées, sécurisées. Dès maintenant, peut-être, il est déjà pour certaines trop tard, mais il faut y aller dès maintenant. Il faut faire des procès-verbaux, il faut faire des constats et il faut bien vérifier que toutes les pièces des archives soient transmises après aux archives départementales.
Face à une situation qu'ils considèrent urgente, des membres du collectif des Nés sous X d'ici ou d'ailleurs ont saisi avant-hier le procureur de la République pour sécuriser les archives de l'association.
Les sous X, on a trop l'habitude que les archives comme ça disparaissent, les pièces disparaissent. Quelquefois, ils sont mangés par les rats. Quelquefois, il y a des inondations. Quelquefois, il y a des incendies. Quelquefois, il y a un bol de chocolat qui se renverse sur le dossier. Il faut qu'on arrête ça. Et je pense qu'il faut vraiment faire un état des lieux et que ce soit totalement sécurisé.
Depuis sa création en 2024, le collectif tente de mobiliser les institutions et parlementaires français pour faire entendre ses propositions. Il réclame notamment la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les dossiers des enfants nés sous X.
Christine Anger pour France Culture. Une information judiciaire pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger ouverte par le parquet de Nanterre contre Total Energy dans l'affaire de l'attaque djihadiste survenue à Palma au Mozambique en 2021. Cela fait suite à la plainte déposée il y a près de 2 ans maintenant par des survivants ou familles de victimes contre les géants français des hydrocarbures qu'ils accusent de négligence alors que Total menait un méga projet gazier dans la région. Malgré le dérapage budgétaire des finances publiques, l'agence de notation Fitch maintient la note souveraine de la France à A1. Moins. Agence selon qui la France conserve une économie vaste et diversifiée avec des institutions fortes et efficaces. La résorption de nos déficits est une priorité, a réagi hier soir le ministère de l'économie. Stop au data center, c'est le nom d'un forum qui se tient cet après-midi à Marseille. Chercheurs, élus, associations et collectifs citoyens se réunissent pour réfléchir aux impacts de ces centres qui stockent nos données numériques. Consommation d'eau, d'électricité, accaparement du foncier, faut-il réguler leur implantation alors qu'Emmanuel Macron veut faciliter leur multiplication? Marseille, reliée au reste du monde par 18 câbles sous-marins de fibre, compte déjà 5 data centers et d'autres sont en construction, ce qui fait de la ville l'un des principaux hubs internet mondial. Mathilde Vinceneuf.
Il faut prendre de la hauteur pour se rendre compte à quel point les data centers ont envahi Marseille, explique Max, membre du collectif Le Nuage était sous nos pieds.
Là, on surplombe le grand port maritime de Marseille et on voit 3 data centers qui appartiennent à Digital Realty. C'est d'anciennes friches industrielles, en fait, qui deviennent des data centers.
Remplis d'ordinateurs, ils produisent beaucoup de chaleur. Il faut beaucoup d'eau pour les refroidir, beaucoup d'électricité pour les faire fonctionner. Anti est membre du même collectif.
Les data centers, c'est à la croisée de plein d'accaparement, dont l'accaparement de l'électricité disponible et qui empêche notamment l'électrification des bateaux quand ils sont à quai, etc.
Et leurs besoins ne vont faire qu'augmenter, alerte Sébastien Barle, adjoint au maire de Marseille en charge de la transition écologique.
Si on additionne tous les projets de data center, c'est plus que la consommation des habitants de la ville de Marseille. On n'est qu'au début en fait de cette histoire parce que l'IA, l'intelligence artificielle, eh bien en fait, c'est des besoins énergétiques 10 fois plus gros pour ces infrastructures du numérique.
Sans compter que c'est une entreprise américaine qui possède la majorité des data centers à Marseille.
Les données dites souveraines de l'État français sont mises dans des casiers qui sont dans une boîte américaine. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un enjeu avec la rupture des relations transatlantiques avec Donald Trump.
Le forum Stop Data Center propose de réfléchir à des alternatives contre ces gros data centers à Marseille.
Des data centers essentiels au développement de l'intelligence artificielle poussée par l'exécutif. Emmanuel Macron a ainsi annoncé le mois dernier 109 milliards d'euros d'investissements privés dans la construction de grands data centers dédiés à l'IA. Et parmi les enjeux de l'intelligence artificielle, le français est-il menacé? Question posée alors que débute ce samedi la semaine de la langue française et de la francophonie. Bonjour Laurent Bézacier. Vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire d'informatique de Grenoble et actuellement en détachement au sein de Naver Labs Europe, alors qu'aujourd'hui l'anglais est massivement représenté dans les outils d'intelligence artificielle et les modèles de langue générative. Est-ce que l'IA représente une menace ou une opportunité pour le français ?
Le français est quand même plutôt bien représenté dans ces outils numériques et ces outils d'IA générative. Donc, je pense que le français est du bon côté de la fracture numérique entre les langues qui vont être plutôt bien dotées en technologie, dont l'IA générative et celles qui le sont moins. Voilà, donc, c'est grandes sous forme numérique qu'on trouve sur le web, des données langagières, et ces données langagières, très grande quantité, évidemment pour l'anglais, mais aussi pour quelques langues européennes, notamment le français. Donc je dirais qu'il n'y a pas vraiment de menace de mauvaise couverture de la langue française par ces nouvelles technologies telles que les génératives.
Alors, vous entendez assez difficilement, Laurent Bézacier. On va essayer de poursuivre cet entretien. Vous dites que la langue française est donc suffisamment couverte, mais ces modèles d'intelligence artificielle générative posent aussi une question de souveraineté.
Oui, alors c'est une question qui est liée, mais qui est un petit peu différente. C'est-à-dire que ces modèles d'IA générative, aujourd'hui, sont développés essentiellement par des entreprises qui sont américaines ou asiatiques. Il y a quelques entreprises qui sont en train de percer au niveau européen, notamment, par exemple, Mistral. Mais néanmoins, la plupart de ces outils sont construits par des entreprises non européennes. Donc là, se pose potentiellement un problème de souveraineté, puisque de plus en plus, ces modèles d'IA générative peuvent être utilisés non seulement par des utilisateurs, mais par des entreprises et également par des administrations. Et donc là va se poser ce problème de souveraineté. Est-ce qu'on fait confiance en fait à des modèles, à des systèmes qui ont été développés en dehors de l'Europe, par exemple?
Est-ce qu'il ne faut pas redouter, ça c'est un autre sujet, mais une forme de standardisation du langage finalement avec ces outils d'intelligence artificielle?
Alors là, c'est une autre question. Si vous-même, vous avez utilisé ce type d'outils, vous vous rendez compte qu'ils sont très utiles pour faire de la reformulation d'un texte lorsqu'on veut écrire un message, un email très très précis, très subtil. On peut être amené à s'en servir, notamment lorsqu'on communique dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Mais de plus en plus, même dans sa langue maternelle, on va être amené potentiellement à utiliser ces outils pour mieux reformuler, pour avoir une meilleure forme. Et donc là, se pose le problème, effectivement, que ces outils sont appris sur des grandes quantités de données, mais qui représentent un peu une vision un peu canonique du langage, peut-être un peu standardisée. Et donc, il y a effectivement un risque de standardisation de la communication issue de l'utilisation de ces outils, c'est certain.
Et dans ces outils, enfin face à ces outils, est-ce que la France et l'Europe finalement peuvent rivaliser avec les modèles américains?
Alors, il y a de très bons ingénieurs et chercheurs dans le domaine qui sont formés en France et en Europe. La France commence et l'Europe commence à être très bien équipée en termes de data center. Néanmoins, il y a quand même du retard qui a été pris au départ par rapport à ces entreprises américaines et quelques entreprises asiatiques également. Donc, il y a du retard, mais il y a aussi de l'espoir avec certaines entreprises comme celle que j'ai citée tout à l'heure qui sont très prometteuses au niveau du développement de ces technologies.
Alors, on peut résumer en guise de conclusion, les prochains défis, selon vous, pour la langue française dans le numérique et l'intelligence artificielle?
Alors, pour la langue française spécifiquement, difficile à dire. Donc, aujourd'hui, ces outils-là, on interagit en langage naturel, essentiellement par l'écrit. On commence à avoir la possibilité aujourd'hui, et ça sera encore plus le cas demain, d'interagir à l'oral, avec la parole, en entrée et en sortie. Donc, c'est déjà peut-être même pas les prochains défis, puisque aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de développement technologique pour travailler directement avec ces outils numériques et ces IA génératives à l'oral, avec la parole. Les prochains défis dans ce domaine, c'est faire en sorte qu'on n'ait pas seulement accès à des assistants conversationnels avec qui on peut discuter, mais véritablement des agents qui vont réaliser des actions pour nous, que ce soit dans le domaine numérique, qui pourront peut-être envoyer des messages, faire un certain nombre d'opérations sur notre machine, ou voire même dans le domaine physique. Et là, on va vers le monde de la robotique équipée par l'IA, par exemple.
De nouvelles perspectives. Donc, merci beaucoup, Laurent Bézassier. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire d'informatique de Grenoble. Un mot de météo avec de la neige à basse altitude et en plaine, entendu sur le nord de l'Auvergne et le Limousin. De la neige également sur le Jura et les Préalpes. Temps instable ailleurs avec des éclaircies alternant avec des passages nuageux et de rares averses. Les températures restent inférieures au normal et atteignent 4 à 9 degrés sur la moitié nord, 8 à 12 degrés au sud.